Bonjour à tous, Shavua Tov, Boker Tov. Voilà, ça y est, on est reparti pour une nouvelle étude de notre histoire, de l'histoire du peuple juif. Et ça y est, on est arrivé, Beshaa Tova Umutzlahat, après la victoire donc de Chizkiyahu Melech Yehuda. Et donc on avait vu la semaine dernière que, eh bien, à la chute du royaume d'Israël, après la destruction du royaume du Nord par les Assyriens, eh bien, c'est Chizkiyahu Melech Yehuda qui va tenir tête 20 ans plus tard à la Assyrie et qui va gagner. Et qui va gagner, on a expliqué la semaine dernière par quel miracle, eh bien, on a réussi à battre les Assyriens. À ce moment-là, eh bien, au niveau de la géopolitique mondiale, énormément de choses vont changer. La Assyrie perd de sa puissance, perd de sa capacité à être le patron de la région. Alors, pourquoi cela, me direz-vous? Alors juste, je vais essayer de régler le problème de l'écho. Seconde. Alors, peut-être que ça va être mieux. On va voir. Donc, voilà, on est revenu. Donc, la Assyrie vient de perdre sa domination sur toute la région. Alors, comment se fait-il? Si on en suit eh bien, ce qu'on a vu la semaine dernière, il est très possible que la Syrie ne soit plus le superpuissant de la région parce qu'il n'a plus d'armée. Cet empire n'a plus d'armée puisque 185 000 morts ont été décomptés dans la campagne de Judée. Sennacherib revient en Assyrie sans véritablement de possibilité de garder eh bien, la puissance de son royaume. Résultat des courses, eh bien, petit à petit, et quand je dis petit à petit, ça va être finalement assez rapide, c'est Babylone qui va commencer à étendre son influence. Babylone, jusqu'à présent, était un pays puissant, mais pas une superpuissance. Les deux superpuissances de l'époque étaient la Assyrie, Ashour, et également Mitzrayim. On a vu que l'Égypte, Mitzrayim, était moins puissante tout de même que Ashour, mais maintenant Babylone commence à monter. Alors évidemment, Babylone, on est dans le sud de la Mésopotamie, dans le sud de l'Irak actuel. On va pas commencer à attaquer l'Égypte, puisque la chute de la Syrie profite évidemment à l'Égypte. L'Égypte part avec une force quand même de base beaucoup plus importante. Donc pour l'instant, Babel et Mitzrayim ne vont pas commencer à rentrer en guerre l'une avec l'autre. Babel va commencer à monter le long du Tigre et de l'Euphrate et va commencer à étendre sa domination sur toutes les régions depuis Babylone jusqu'au nord. Et très rapidement, eh bien, Babylone va également étendre son emprise sur l'ancien empire de la Assyrie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en Judée? Chizkiyahu Melech Yehuda, on a dit, Chizkiyahu est mort. Une fois qu'il a terminé son règne, il a régné pendant 29 ans. Et c'est son fils qui va lui succéder. Le fils de Chizkiyahu n'est pas n'importe qui, puisqu'il est le fils de Chizkiyahu, bien évidemment, mais il est également, et ça, c'est quand même important de le noter, il est également le petit-fils de Yeshayahu Hanavi. Eh oui, petit-fils de Yeshayahu Hanavi. Et ça, c'est quand même assez important parce que finalement, quand on y réfléchit de petites secondes, il y a toute une histoire qui nous est mentionnée dans le Talmud que Chizkiyahu, au départ, ne voulait pas se marier. Pourquoi il ne voulait pas se marier? Ben parce qu'il avait vu par esprit prophétique eh bien, que son fils deviendrait un rachat. Il a décidé de ne pas avoir de fils rachat. Yeshayahu Hanavi, le prophète Isaïe, vient lui dire « Mais ce n'est pas à toi de déterminer qui doit vivre et qui doit mourir, qui doit devenir rachat et qui ne doit pas devenir rachat. Toi, tu as une mitzvah en tant que juif, comme tous les juifs, d'avoir des enfants. Donc, marie-toi et fais des gosses. » Il va accepter et Yeshayahu va même lui donner sa fille en mariage. Et donc, c'est de cette union-là, de la fille de Yeshayahu et de Chizkiyahu Ameler, que va naître Menaché Meler Yehuda. Et là, c'est important de souligner ce qui se passe. Menaché Meler Yehuda, eh bien, comment te dire? Tout d'abord, il est le roi qui va régner le plus longtemps dans toute Mamlechet Israël ve Yehuda. Puisque Menaché Melech Yehuda va régner tout de même et c'est pas une mince affaire, 55 ans. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, laisse tomber. Et ce qu'on connaît de Menaché Melech Yehuda, c'est que c'était pas un roi d'une tzidkout extraordinaire. Évidemment, Chata Verti et Israël, il a amené l'idolâtrie un peu partout dans la terre de Judée. Il a même fait massacrer son grand-père, Ishayahu. Ah oui, c'est pas rien, il l'a mis dans un tronc d'arbre et il a scié le tronc avec Ishayahu dedans. Autant te dire que c'est pas quelqu'un d'extraordinaire. Cependant, eh bien, quand on regarde les textes de Divrei Hayamim, on se rendra compte que Menaché Melech Yehuda a été pourri pendant 22 ans, mais a fait tchouva pendant 33 ans. Et pourtant, l'influence terrible qu'il a eue dans ses premières années va faire qu'il n'y a que ça qu'on va retenir plus ou moins de lui. Menaché laissera sa place à son fils Amon, qui ne restera pas très longtemps. Et à ce moment-là, c'est sous la direction de Amon, eh bien, que Babylone commence à être très, très proche d'Israël. Alors, il faut bien comprendre une chose. À l'époque de Chizkiyahu, Chizkiyahu avait fait des alliances avec Babylone contre leur ennemi commun, la Assyrie, Ashour. Désormais, eh bien, Babylone commence à se dire que la Judée sera pour lui, eh bien, un territoire totalement facile à gérer puisque, eh bien, ils avaient déjà des alliances. Ils ne seront pas du tout. Ils n'auront donc aucune réticence à se faire contrôler gentiment par Babylone. D'autant plus que Menaché, étant un roi qui a mis l'idolâtrie au bout du jour, eh bien les Babyloniens peuvent se dire il n'y aura pas de problème. À ce moment-là, à cette époque-là, après Ishayahu, les prophètes, qui sont les prophètes de cette époque-là, sont Micha, Yoel, Yoel Anavi, Nahum, Habakkuk, Tsfania. Il y a également Hulda Nevia. Et il y a également celui qui va être l'un des personnages qui va donner le nom de mon fils, Uria, Uria Navi. Il n'a pas de livre Uria Navi, mais bon, il fait partie des Navi. Macheloye, eh bien, nous sommes donc dans cette période-là où la Nevoa se concentre de manière générale sur la Nechama de l'après. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de voir les problèmes arriver et donc on amène des Nevi'im avec une prophétie de réconfort pour l'après parce qu'on sait bien que les choses vont mal tourner. Après Amon montre sur le trône un autre tzaddik. Un tzaddik qui va balayer l'idolâtrie faite par son père et son grand-père. Bon, Amon n'a régné que 2 ans, mais bon. Après, va monter sur le trône Yoshiyahu. Yoshiyahu Melech Yehuda. Yoshiyahu va régner 31 ans, c'est pas mal. Et Yoshiyahu est un tzaddik. Yoshiyahu Melech Yehuda, tzaddik Gadol Meod, à tel point que le Talmud verra en Yoshiyahu eh bien le Mashiach. C'est-à-dire, eh bien, le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, va mettre dans la bouche d'un homme qui s'appelle Rabbi Hillel. Et nous dit Rabbi Hillel, « En lem Mashiach l'Israël ». C'est pas la peine d'attendre de nouveau le Mashiach, puisque toutes les promesses qui ont été faites pour le Mashiach se sont réalisées à l'époque de Yoshiyahu Melech Yehuda. Bon, la Gemara tout de suite va dire, « Non, faut pas écouter Rabbi Hillel, better qu'il y aura le Mashiach, ce que tu veux. » Mais ça montre que Yoshiyahu Melech Yehuda, à son époque, eh bien, énormément de choses qui avaient été promises eh bien, sont en train de se réaliser. Et effectivement, le bonhomme, il est porteur de toutes les, de tous les espoirs. Il est porteur de tout ce qui, ce qui peut être porteur. Le problème, c'est que Yoshiyahu, d'abord, va voir les Babyloniens étendre leur domination. Yoshiyahu, à ce niveau-là, préfère prévenir que guérir. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que les prophètes le lui ont dit, peut-être que lui, il l'a ressenti. Dans tous les cas, Yoshiyahu sent qu'un conflit contre Babylone amènera à la destruction de la Judée. Et il veut protéger ce qui est pour l'instant protégeable. C'est-à-dire que d'un côté, il a son armée, bon, bah, très bien, mais également, il faut mettre à l'abri tout ce qui est protégeable dans le Beth Amikdash. Et oui, jusqu'à présent, le Beth-Amikdash n'avait jamais été inquiété. Mais il semble-t-il qu'à l'époque où les Babyloniens sont en train de tellement s'imposer, Yoshiaou comprend que le danger plane sur le Beth-Amikdash. Il va donc ainsi prendre les ustensiles du Beth-Amikdash et particulièrement, eh bien, Aaron Abrit, l'Arche d'Alliance, et il va tout simplement la cacher à l'intérieur du mont du Temple, quelque part dans une salle souterraine secrète. Et c'est là-bas qu'il cache Aaron Abrit. Entre parenthèses, eh bien, cela veut dire que d'après le judaïsme, Indiana Jones n'a pas trouvé Aaron Abrit. Parce que d'après nous, l'Aaron est toujours quelque part dans le mont du Temple, à un endroit. Et dès qu'il faudra la retrouver, on la retrouvera. C'est la raison pour laquelle le Machon Amikdash, qui s'occupe à reconstruire les objets du Temple, eh bien, n'ont pas refait l'Aaron Abrit, disant qu'elle est là quelque part, et que dès qu'il faudra la retrouver, eh bien, on la retrouvera. Donc ça, c'est Yoshiaou. Oui, mais Yoshiaou finit dans une fin tragique. Eh oui. Quelle est cette fin tragique? Eh bien, cette fin tragique, c'est une guerre qui était tellement, tellement inutile. Paro Necho, c'est son nom. Paro Necho arrive, et nous sommes plus ou moins dans les années moins 620, bah, Ezorazé. À ce moment-là, Paro Necho, moins 610, arrive et envoie une lettre à Yoshiaou. Il n'est pas en conflit avec lui et il ne veut pas être en conflit avec lui. Il demande à Yoshiaou un laissez-passer pour faire passer son armée à lui, Pharaon, pour traverser la Judée et aller attaquer les Babyloniens au nord. C'est censé être un win-win. À ce moment-là, Yoshiaou, il est censé dire « Mais tu sais quoi, je viens avec toi !» Ou le Pharaon, ben « Vas-y, passe, Bekef !» Mais Yoshiaou veut que se réalise déjà à son époque « Lota avor cherev bikvulecha » L'une des prophéties de l'époque messianique, c'est que ne traversera pas ton pays aucune épée. Il ne veut donc pas laisser passer l'armée de Paro Necho et bien l'attaquer. Résultat des courses, il vient s'opposer à Pharaon et il l'arrête, enfin il essaye de l'arrêter dans la Bika de Megiddo. Dans la vallée de Megiddo, vous remarquerez d'ailleurs que c'est au-dessus du territoire de Eretz Yehuda. En fait, Yoshiaou est obligé de poursuivre. Et c'est là-bas que dans ce combat-là, il va tomber au combat et sera tué par Paro Necho. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Veyirmiyahu Anavi, le prophète Jérémie, Mekonen, il va écrire tout un texte où il pleure la mort de Yoshiaou. Melech Yehuda. La chute de Yoshiaou marque également le début de la fin de la royauté d'Israël. Israël, vous m'entendez? En fait, la royauté de Yehuda. Après Yoshiaou, il va y avoir un roi qui s'appelle Yoachaz, qui ne va régner que 3 mois, et ensuite monte sur le trône Yehoyakim. Yehoyakim va très vite être succédé par son cousin. Parce que Yehoyakim, ne nous trompons pas, eh bien, se révolte contre Babylone. Ça y est, les Babyloniens sont présents, ils sont là, ils sont dans 2 secondes dans la porte. Nous sommes en l'an moins, et pour être exact, attends, je vais te dire tout de suite, en l'an moins 600, plus ou moins, pour être exact. Et à ce moment-là, eh bien, ils se révoltent contre Babylone. Babylone va exploser Yehoyakim et va mettre sur le trône son successeur, finalement, Yehoyachin. Yehoyachin, eh bien, c'est un roi qui a un autre nom. On le connaît sous un autre nom dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, il s'appelle Yechonia. Yehoyachin, Yechonia, même combat. C'est-à-dire, Yehoyachin, Yechonia, l'homme échané, va régner 3 mois, va continuer la révolte contre les Romains, contre les Babyloniens. Et résultat des courses, ce qui va se passer, c'est que les Babyloniens vont arriver et vont emmener en exil à Babylone Yehoyachin, Yechonia donc, et toute sa cour. Finalement, eh bien, on va amener tout le monde en exil, l'élite, l'aristocratie de la Judée, en exil à Babylone. On ne détruit pas encore la Judée et on va mettre en place le cousin de Yehoyakhin, Tzidkiyahou, comme étant le roi d'Israël. Roi de la Judée, évidemment. En leur faisant bien comprendre à Yehoyakhin, à Tzidkiyahou et à ses amis qu'il vaut mieux être très docile pour ne pas se faire eh bien, massacrer. Bon, bah, très bien. Ça va durer pendant 10 ans. Mais finalement, la 11e année, Tzidkiyahou se révolte lui aussi contre Babylone. Il se révolte contre Babylone. Il a même des accords avec Melech Amon. Amon, dans la Jordanie actuelle, on veut se révolter contre Babylone. Et à ce moment-là, les Babyloniens et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, décide que c'est terminé et la destruction est mise en place. Une armée énorme, gigantesque arrive en Judée et le balayage est très très vite réglé. Nous sommes en moins 588, le jour du 10 Tevet. Eh bien, Meler Bavel va commencer le siège de Jérusalem. Pendant près de 2 ans, le siège amène une famine terrible dans la ville. Mais on ne veut pas se rendre. Et finalement, eh bien, comme vous le savez, le 9 du mois de Tammuz, il y a une marloquette entre le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem, est-ce qu'il s'agit du 9 ou du 17 du mois de Tammuz, le Tanakh nous parle du 9, eh bien, les soldats babyloniens réussissent à détruire la muraille de Jérusalem et l'armée babylonienne rentre dans la ville. À ce moment-là, eh bien, celui qui a envoyé pour terminer le travail, ce n'est pas le roi lui-même, ce n'est pas Nabucodonosor qui vient à Nebuchadnezzar, il envoie son général en chef, si vous voulez, Nebuzaradan. Nebuzaradan, Rav Tabachim, et c'est lui qui vient à Jérusalem et qui va tout simplement détruire le royaume de Judée. Le royaume de Judée est évidemment, eh bien, le 9 du mois de Av, c'est également la destruction du Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash marque eh bien, la chute totale, si je puis dire, eh bien, de tout ce qui aurait pu être l'espoir du peuple juif. Tant que le Beth Amikdash était toujours là, il y avait quelque chose auquel l'âme Israël pouvait se rattacher. Là, c'est véritablement terminé. Tzidkiyahou a essayé de s'enfuir par les souterrains, mais il a été rattrapé à côté de Yericho. Il va être ramené devant le roi et on va lui crever les yeux et l'emmener ensuite en exil. Il semble que tout est terminé pour l'histoire du royaume de Judée. À ce moment-là, sont emmenés en exil une grande partie du peuple juif à Babylone, pas tout le monde, une grande partie du peuple juif est emmenée à Babylone et c'est à cet événement et cette occasion que les Babyloniens se disent, certes, on a amené, ça y est, on a gagné, on a terminé, mais on aimerait bien quand même qu'il y ait un contrôle de cette région, mais pas de nous, parce que nous, on veut retourner chez nous. Et donc, on va mettre en place à Jérusalem un gouverneur. Il n'est pas roi, mais il est gouverneur à la solde des Babyloniens. Si vous voulez, il doit respecter toutes les directives de Babylone. Ce gouverneur, eh bien, il faisait partie de la famille de Shevna Sopher, c'est-à-dire un des scribes du roi Tzidkiyahou. En d'autres termes, eh bien, il faisait partie de ces, on va dire, dirigeants administratifs du royaume. Eh bien, l'un de ses descendants s'appelle Gedalia ben Achikam, et c'est lui qui sera nommé gouverneur de la Judée. En d'autres termes, Jérusalem n'est qu'un tas de cendres, finalement. La ville a brûlé, le Beth Amikdash a brûlé. Mais Gedalia ben Achikam est mis en place par les Babyloniens pour garder un semblant de cohérence et de cohésion des Juifs en Judée, qu'il n'y ait plus de révolte. Et les Juifs, donc, sont, on va dire, une grande partie d'entre eux partis en exil, mais une autre partie est restée à Jérusalem sous la tutelle de Gedalia ben Achikam.